se fit de la matière par le père Philippe à Rimont, 12 janvier 1990, premier cours.
Nous allons essayer ensemble de voir ces deux derniers chapitres de la physique d'Aristote. Livre 7, les deux derniers livres, je veux dire. Livre 7 et livre 8. Si on a le temps, on regardera ensuite le contrat Gentilès. La manière dont saint Thomas utilise de plein pied ça pour montrer les voies d'accès. On le fait jamais, on voit tout de suite la somme. Et je crois que c'est important de revenir au chapitre 7 et 8 de la physique d'Aristote. C'est difficile. Hein? Alors si c'est trop difficile pour vous, vous avez le droit de ne pas assister. Hein? Voilà, sauf si le directeur des études vous empêche. Et moi je dis que si c'est trop difficile, eh bien n'assistez pas. Si on reste deux, ce sera suffisant. Faire un cours. Et je crois qu'il y en aura au moins deux qui s'y intéresseront. Parce que ce sont des chapitres qui, historiquement, ont joué un rôle extrêmement important. Il faut le savoir. Dans notre culture occidentale, au plan philosophique. Évidemment, aujourd'hui, on ne s'intracasse plus beaucoup. Personne ne remue ces vieilles cendres des livres 7 et 8 d'Aristote. Mais nous le faisons, nous, non pas par un souci archéologique, mais par un souci de comprendre un peu ce qu'a été cette recherche d'un païen. Souci de vérité. Alors, voyez les questions qui se posent. Hein. Vous pourrez demander ça. Père Stéphane, parce que c'était sa thèse, de voir que signifie exactement dans la pensée d'Aristote livre 7 et 8 et le livre lambda des métaphysiques pour faire le parallélisme. Voyez, on est là au sommet de la pensée aristotélicienne avec le livre lambda. Que signifie exactement par rapport au livre lambda le livre 7 et 8? La tradition a surtout gardé livre 7 et 8 de la physique. On dit toujours, le dieu d'Aristote, c'est le dieu du premier moteur. Et on ne comprend rien du tout à ce qu'on dit quand on dit ça. Parce qu'au livre lambda, Aristote dit que l'être premier, c'est l'acte pur, c'est noésis, noéseo. La pensée de la pensée. Quel lien y a-t-il entre ce que représente cette affirmation du premier moteur, on verra comment on peut le traduire, et l'acte pur? C'est quand même très important, ça. Et c'est difficile. La preuve, c'est que il y a des ornières, et on reste dans ces ornières. Pas commode du tout à bien comprendre. Est-ce que le livre 7 et 8, c'est encore de la physique? Ou est-ce que c'est de la métaphysique larvée? Quels sont les rapports exacts entre physique et métaphysique? Physique et philosophie première. Tout ça se pose comme question, vous voyez, à travers l'étude que nous faisons. Et j'aimerais que vous puissiez vous-même comprendre cela, parce que c'est important. Parce que dans ce domaine-là, on sort des quantités de bêtises, de gens qui ont lu ça très rapidement et d'une manière très extérieure. Et déjà, quand il s'agit de la découverte de la phusis aristotélicienne, on a beaucoup de peine de comprendre. Quand il s'agit de comprendre livres 7 et 8, on a encore beaucoup plus de peine de le comprendre. Et quand il s'agit du livre lambda, plus personne ne comprend rien. Alors, il s'agit, hein, puisque nous avons un amour pour Aristote, mais un amour encore beaucoup plus grand pour la vérité. Aristote et la vérité, je les aime tous les deux. Mais la vérité encore beaucoup plus qu'Aristote. Et en disant ça, je suis très aristotélicien. Puisqu'Aristote dit qu'il aime Platon et la vérité, mais qu'il aime plus la vérité que Platon. Donc, je puis lui renvoyer la balle et lui dire « Je l'aime et j'aime la vérité, mais bien plus la vérité qu'Aristote. Je me sers d'Aristote comme d'un sycomore qui tient bien, qui est bon. Je monte dessus. Mais c'est la vérité que je cherche. Et c'est le visage de la vérité que je cherche. Et c'est ça que je cherche à travers tout. Ça m'est égal de dire qu'Aristote là, étant donné les circonstances de temps et de lieu dans lesquels il a élaboré sa physique, Aristote là fait des blocages. Nous l'avons vu pour certains points. Alors, il faudrait garder ce même regard critique pour le livre 7 et 8. Ce sont des livres vénérables. Alors, ne les regardons pas trop vite en disant vieille physique, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Non. Saint Thomas l'a regardé avec beaucoup de respect dans le Contra Gentiles. C'est dans le Contra Gentiles qu'on voit Saint Thomas qui revient à la physique d'Aristote. Alors, ceux qui s'intéressent à la pensée de Saint Thomas doivent regarder le Thomas des commentateurs des sentences par rapport aux voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Et Saint Thomas du Contra Gentiles. Vous savez bien que Saint Thomas du Contra Gentiles, c'est Saint Thomas qui est revenu à Aristote, au-delà d'Avicenne. Et c'est pour ça que le Contra Gentiles est quelque chose de très très important pour nous. Contra Gentiles, pour nous, représente un saint Thomas qui, au-delà de toute la tradition du Lombard, puisque Pierre Lombard a marqué très très fort, je sais bien que c'est une tradition de 100 ans, mais c'est quand même quelquefois les plus difficiles à dépasser. Parce que les très vieilles traditions, ça va. Il y a un peu de poussière dessus. Tandis que les traditions de 100 ans, il n'y a pas beaucoup de poussière. Et alors elles pèsent tout leur poids. Et c'est avec le Contra Gentiles que saint Thomas dépasse, mais d'un coup d'aile magistral, toute la tradition de Pierre Lombard. Pierre Lombard est très loin de nous, et saint Thomas est très proche, si on sait le comprendre. Oui, je dis si on sait le comprendre, parce que non encore. Il faut comprendre saint Thomas dans la perspective propre qu'il donne, le désir de faire une théologie scientifique, d'une science subalternée à la vision béatifique. Il ne faut pas l'oublier. Quand on fait de la théologie scientifique, on se met à l'ombre de la vision béatifique. On n'a pas le droit de quitter ce regard vers la vision béatifique. Alors, si on n'a pas ce regard vers les visions béatifiques, on ne comprend rien à la théologie scientifique de saint Thomas. Et tout le tragique de notre monde d'aujourd'hui, chez les théologiens, c'est qu'ils s'oublient que la théologie est une science subalternée. Alors ils mettent la théologie à la sauce moderne, croyant qu'on peut faire de la théologie ce qu'on veut. Parce qu'on oublie que c'est une science subalternée. J'ai vécu ça à Fribourg. Je l'ai vu. Et maintenant, je vois les conséquences. Mais j'étais là au tournant. Et le tournant, c'était très net. C'est que le théologien doit avoir l'indépendance du scientifique. Le scientifique n'accepte fonctionnement actuel de l'Église. Parce qu'on ne voit plus que l'aspect théologie scientifique. Il est évident qu'au niveau science, l'autorité est la dernière des raisons. Au niveau science, et au niveau théologie scientifique, l'autorité est fondamentale. Puisqu'il s'agit d'être à l'ombre de ce que représente la vision béatifique. Alors, je vais lire avec vous, dans la mesure où nous avons le temps, parce que je crois que ça vaut la peine. Tenez que parmi vous, il y en a combien, coup de sonde, il y en a combien qui ont lu le livre 7 des physiques d'Aristote? Ah, oui, 2, 3, c'est bien. Vous voyez, faites le pourcentage. C'est pas si mal, 3. Alors, je demanderai à ceux-là qui l'ont lu, médité et réfléchi, d'être l'élément actif. Ah, je n'ai pas regardé s'il avait lu. D'être l'élément actif. Parce que je crois que c'est important. Allez. Je vous ai dit, ce cours est un cours de recherche, genre séminaire. Et j'aimerais que ceux qui ont réfléchi posent les questions pour que tout le monde puisse entrer davantage. Alors, tout mu est nécessairement mu par quelque chose. Apanthokinoumenon et potinos. Donc, tout ce qui est mu, est nécessairement mu par quelque chose. Ça, c'est la grande affirmation. Voilà. C'est presque un principe pour Aristote. Hein. Tout ce qui est mu est par un autre. Abalio. Ce qui n'est pas accepté dans une pensée scientifique moderne.
Père Stéphane-Marie dit que ce qui est mu, c'est déjà...
Non, attention, vous viendrez après. Je crois qu'il faut d'abord regarder Aristote et pas regarder les commentateurs.
C'est une question de traduction.
Quoi ?
Père Stéphane-Marie préfère dire ce qui est en mouvement plutôt que ce qui est mu.
Bah, c'est ce qui est mu. Le kinoumenon, je regrette. C'est l'étant mu. Tout ce qui est mu, il dit comment ?
C'est lui qui dit que ce qui est mu... ému par un autre, mais être mu, ça veut dire être mu et ému par un autre, c'est une tautologie.
Ah non, on peut se mouvoir. C'est la constatation du fait d'être mu. C'est quand même le point de vue du participe étant mu. Tout ce qui est en mu. Oui, je ne crois pas que... Bon, on peut discuter sur la traduction. Je crois qu'il suffit de comprendre. Tout ce qui est mu, tout ce qui est mu, c'est simple. Il est mu. Quand vous dégringolez dans l'escalier, vous êtes mu. Et vous êtes mu par un autre. Alors c'est le hypo qui est très délicat, c'est pas hypotinos. C'est sur le hypotinos que tout l'intérêt là-dessus. Mu par quelqu'un. Tinos. Vous voyez ? Donc la grande affirmation. Bon, alors prenez la traduction si vous voulez, hein, vous avez des gars. Le tout, c'est de constater que c'est une réalité qui est vue. Voilà. Allez. exemple parce que c'est très net, ce qui montre bien que cette affirmation, c'est un principe et ce n'est pas vu du tout du côté descriptif pour Aristote. C'est vu d'un point de vue philosophique. Tout ce qui est mu par un autre, c'est pas une description. Vous voyez, c'est donc un principe. Et c'est net, c'est apan to kinoumenon. Donc, tout ce qui est mu, nécessairement ému par quelque chose, kinos. D'une part, en effet, s'il n'y a pas en soi le principe du mouvement, évidemment, il est mu par une autre chose. Donc les deux aspects, si hein, d'une part, en effet, s'il n'a pas en soi le principe du mouvement, vous voyez, c'est là le point de vue très délicat. Tout mouvement naturel provient d'un principe immanent. La phusis est un principe immanent. Alors, est-ce que ce principe immanent suffit à montrer qu'il est mu? Donc, d'une part, en effet, s'il n'a pas en soi le principe du mouvement, évidemment, il est mu par un autre chose. Car c'est un autre, c'est autre chose qui sera le moteur, alors le tokinon, la source du mouvement. Vous voyez? Alors, c'est ça le tokinon, faisons attention. Parce que nous, moteur, c'est cause efficiente. Et le tokinon, c'est pas seulement la cause efficiente. C'est la source du mouvement. Le tokino. D'autre part, s'il en soi, prenons AB pour représenter cette chose qui se meut par soi et non par le mouvement d'une de ses parties. Donc, le katoto, c'est ça qu'il faut être attentif. Donc celui qui est mu, katoto. Katoto, c'est-à-dire par lui-même. Le kataoto. Le kataoto grec, qui se traduit par le percé latin, et qui se traduit en français par soi. Ce qui est mu par soi n'est pas mu par un autre. Alors là, il faut bien comprendre cette espèce de petite opposition qu'il faut bien comprendre. Yeah. c'est important, puisque Hegel considère lui-même que celui qui est le maître qui nous aide à penser, c'est Aristote. Il ne faut pas l'oublier. Hegel considère que Platon ne nous forme pas, que le seul qui forme, c'est Aristote. Et c'est étonnant de voir que dès le point de départ, il y a une confusion entre la position d'Aristote sur le devenir et la position de Hegel sur le devenir. Autrement dit, vous avez deux lectures philosophiques totalement différentes sur le devenir. Et là, je crois que c'est capital. Une fois qu'on a, si on ne comprend pas ça et qu'on met le petit doigt dans la dialectique, on est entraîné. Toujours, quand on compare une pensée dialectique et une pensée réaliste, il faut la penser au point de départ. Alors, le point de départ de la dialectique d'Aristote, c'est le point de départ de la dialectique de Hegel, c'est la synthèse de ce qui est et de ce qui n'est pas, qui est le devenir. Donc le devenir est pensé comme une synthèse. Alors que pour Aristote, le devenir est pensé comme quelque chose de complexe qui implique toujours les deux contraires. C'est juste l'inverse de la synthèse. Le devenir n'est pas une synthèse. Le devenir est un fait que nous constatons immédiatement. Et que nous constatons non pas au niveau de l'être, mais au niveau du devenir. Nous avons beaucoup de peine, à partir du devenir, de découvrir l'être. Je n'ai pas l'expérience immédiate de l'être, mais j'ai l'expérience immédiate du devenir. Toutes mes expériences sont au niveau du devenir. L'être, je le saisis comme un au-delà du devenir. Expérience, jugement d'existence. Oui, donc c'est le point de départ de la pensée intellectuelle, mais ce n'est pas le point de départ de l'expérience. Alors que le devenir est le point de départ de l'expérience. Je crois que c'est très important pour nous, ça, de redécouvrir ce point de départ de l'expérience qui est le mouvement. Et vous le savez, c'est directement comme une expérience. Qu'il s'agisse de l'expérience interne ou de l'expérience externe, c'est toujours le devenir. Toute expérience implique un être qui est mu. Toute expérience. C'est pour ça que c'est une donnée, ce qui est mu. C'est un fait, ce qui est mu. Que vous l'expérimentez comme le fluxus. Ce qui est mu est saisi maintenant, mais immédiatement après, ce n'est plus le même. C'est le propre du devenir. Parce que ce qui est le même, c'est le sujet du devenir. Et ce n'est pas ce qui est mu. C'est, si vous voulez, c'est ce qui est mu, mais ce n'est pas ce qui est mu en tant qu'il est mu. C'est en tant qu'il est sujet du mouvement. Je continue. Alors donc Aristote essaie de montrer. Hein. Alors vous allez me poser la question, est-ce qu'Aristote définit ce principe? Est-ce qu'il veut le démontrer? Ou est-ce que ce principe ne peut pas être démontré? C'est la première question qui se pose. Hein. Tout ce qui est mu par un autre, est-ce que nous pouvons le démontrer? On démontre tout ce qui est mu, ému par un autre. Ce n'est plus un principe, c'est une conclusion. Alors déjà, là, vous voyez, il y a toute une bataille philosophique. Pour Aristote, tout ce qui est mu, ému par un autre, est un principe. C'est-à-dire qu'on ne démontre pas. directement dans la lecture de ce qui est mu, ce qui est en acte, l'acte entelekeia, l'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Oui.
C'est une lecture qui est simplement au niveau de la philosophie de la matière, ou c'est déjà la philosophie première ?
C'est la philosophie de la matière. C'est là la question très très délicate. Y a-t-il intrusion de la métaphysique de l'être en acte et l'être en puissance ? Ou sommes-nous tout simplement en face de deux états ? Eh bien, je crois qu'on est en face de deux états. Et c'est suffisant. Vous voyez ? On n'est pas au niveau de l'être. On est au niveau du devenir. Et c'est un principe au niveau du devenir. Autrement dit, alors, vous voyez, c'est pour répondre à cette question, il s'agit de revenir à l'induction de l'être en acte et en puissance. Pour l'induction de l'être en acte et en puissance, on part de la constatation de deux états. Celui qui dort et celui qui est éveillé. Celui qui est parfait, celui qui est imparfait et celui qui est parfait. Celui qui est capable de construire et celui qui construit. Cette constatation n'est pas au niveau métaphysique. Elle est au niveau d'expérience. Je ne peux pas identifier l'état imparfait et l'état parfait. Je ne peux pas identifier celui qui dort et celui qui est éveillé. Je crois que nous faisons tous la distinction. Nous faisons actuellement de la philosophie et nous faisons de la philosophie en tant que nous sommes éveillés. Ce serait difficile de faire de la philosophie en tant que nous dormons. Ce n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas ? Ce serait très agréable de pouvoir dormir. Continuer de dormir et faire de la philosophie. Plus personne ne sera en retard à l'horizon. Parce que. On continuerait de faire horizon et dormir. J'ai trouvé le truc, moi. Je fais horizon en dormant. J'ai l'intention de faire horizon. Donc je fais horizon. Et je dors. Mon horizon est béni. Distinction entre celui qui est éveillé et celui qui dort. Je crois que c'est difficile d'identifier les deux. Oui, et c'est pas encore la métaphysique, c'est l'expérience. Donc on est au niveau de deux états différents. Alors quand je dis le mouvement, c'est l'entelekeia de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance, je ne suis pas au niveau métaphysique, je suis au niveau du devenir. Au niveau de deux états. L'état de celui qui est en acte et l'état de celui qui est en puissance. Et je crois que quand on dit ce principe, tout ce qui est mu par un autre, je suis au niveau physique. La philosophie de la nature. Pas au niveau scientifique. Le savant décrit. Alors le savant dira, mais non, je ne peux pas. Sinon. Parce que justement, en décrivant, le savant n'analyse pas. Tandis que là, j'analyse. J'analyse deux états différents qui sont irréductibles l'un par rapport à l'autre. Je ne peux pas en même temps dormir et être réveillé. Sauf si je suis somnambule.
Dès qu'on dit que l'art ne peut pas provenir de ce qui est en puissance,
oui.
On fait rappel à la métaphysique.
Non. Non. Je suis au niveau du devenir. Je crois pas. La métaphysique saisit l'être en acte comme un principe ultime. Et donc séparé. Tandis que là, en physique, toujours, je vois toujours les deux. Ce qui est en acte, l'acte de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Oui. C'est pour ça qu'au plan métaphysique, le mouvement est une modalité de l'acte, mais n'est pas l'acte. Oui. Quand vous voyez la métaphysique de l'acte, vous voyez les cinq modalités de l'acte. Et vous voyez que le mouvement est la dernière modalité.
tout ce qui est en acte en tant qu'en puissance ne peut pas être en acte que
pur.
Il faut toujours préciser que c'est
plutôt... bah, oui, c'est évident. On est en physique, donc on n'a pas besoin de préciser, vous voyez. Je crois que ça, c'est très important. Autrement, mais il n'y a pas de principe en physique. Il y a un principe qu'on saisit. Mais quand vous dites tout ce qui est mu, ému par un autre, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Vous voulez exprimer que le mouvement comme tel implique acte et puissance. Et que ce qui est en puissance ne peut pas expliquer l'acte. Quand vous dormez, vous n'expliquez pas que vous vous éveillez. Il faut autre chose que l'état de celui qui dort pour expliquer qu'il est éveillé. Oui. Et l'autre sera l'âme. Oui. Si vous vous réveillez tous les matins, ce n'est pas le sommeil qui explique l'éveil. Ce n'est pas ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance, donc dans un état de potentialité, qui explique l'acte. Donc il est mu par un autre.
Dans la phosis, il y a deux gros principes.
Qu'est-ce qu'il y a?
Dans la phosis,
oui.
Il y a deux gros principes.
Oui.
Nature forme et nature matière.
Oui.
La nature forme, c'est actu.
Mais n'oublions pas.
Ce qui est n'est pas simplement uniquement en puissance. Est...
Non, attention, attention, attention. N'oublions pas que le principe saisi en premier lieu en physique, la phusis, principe immanent de ce qui est mu. Vous voyez, la distinction matière et forme est une analyse que nous faisons à partir de ce principe et dans ce principe. Donc c'est pas tout à fait premier. Tout ce qui est mu est mu par un autre. Vous ne faites pas intervenir la distinction matière et forme. Vous faites simplement intervenir le point de vue de deux états, acte et puissance, qui n'est pas le même, la même distinction que matière et forme. C'est pas la même distinction. Parce que ce qui est mu implique nécessairement une forme. C'est pas la pure matière. Qui est mu, c'est le corps. C'est votre corps qui est mu. Oui.
Non, mais c'est plus difficile de saisir ce qui est éveillé, ce qui est endormi quand il s'agit d'une réalité purement matérielle.
C'est évident. Mais je me sers ça à titre d'exemple. Et la matière et la forme, je peux prendre. Ah, Aristote prend la matière et la forme. L'état imparfait, l'état parfait. Oui. Non, je faisais ça exprès pour montrer l'induction de l'être en acte et de l'être en puissance. On aboutit à saisir l'être en acte en lui-même. Alors que lorsque je saisis l'acte de ce qui est mu, je ne saisis pas l'acte dans toute sa pureté. Je le saisis relatif à ce qui est en puissance.
Est-ce que les deux gros principes de la phusis s'expliquent la cause du mouvement de ce qui est mu?
Oui, oui, cause immanente.
Est-ce que ça s'explique pas plutôt le comment du mouvement de ce qui est mu? Le comment et non pas la cause.
Où? Pour ici?
Pour ce qui est mu.
Quand vous dites tout ce qui est mu par un autre, vous êtes dans l'ordre du comment.
Non.
C'est ça que vous voulez dire.
Non. Les deux gros principes de la phusis, est-ce que ça explique la cause ou le comment du mouvement de ce qui est mu?
Explicitez un peu, je vois pas très bien.
Ben, vous dites que ce qui est mu est mu par un autre.
Oui, voilà.
Donc, en lui-même, vous avez l'air de dire que ce qui est mu, bien précisément, le mouvement n'est pas actué par lui-même, mais par...
Oui, voilà, voilà, exactement. L'analyse que je fais de ce qui est mu implique un acte qui ne s'explique pas par celui qui est mu. Voilà. Il porte en lui-même une dépendance à l'égard de quelque chose d'autre.
Donc la cause du mouvement...
précédemment. Le point de vue de la nature et le point de vue du mouvement. Oui, c'est pour ça que c'est pas une expérience directe. C'est pour ça que je dis que c'est un principe. Parce que ça présuppose des quantités de choses avant. Oui. Ce n'est pas l'expérience directe. Priez pas uniquement par un aspect de constatation, dire tout ce qui est mu par un autre. Mais non, vous ne le constaterez jamais, ça. Mais dans l'analyse que vous faites de ce qui est mu, c'est une réalité existante.